Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 3. Voici ce que l'apôtre nous dit. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Amen. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Amen. Et c'est sur cela que j'aimerais que l'on s'entretienne un instant. Paul mentionne quelque chose d'important. Alors qu'il loue Dieu pour la foi de ses chrétiens et de leur charité, il montre le fondement même de cette foi et de cet amour que ces chrétiens vont avoir. Il dira ceci: à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. L'espérance chrétienne. L'épître de Paul aux Colossiens, tout comme celle aux Philippiens, aux Éphésiens et à Philémon, sont considérés comme des épîtres de la captivité. Pourquoi? Parce que Paul les a écrites lorsqu'il était en résidence surveillée à Rome. Alors qu'il était en résidence surveillée, Paul, par l'Esprit de Dieu, va écrire ses lettres. Et il écrit la lettre aux Colossiens pour insister sur quelque chose d'important, sur la supériorité de Christ sur toute chose et la pleine suffisance en lui et en lui seul. Pourquoi? Parce que l'Église s'était fait prendre au piège d'un mélange, le mélange du paganisme, le mélange des choses du monde, de la philosophie du monde avec la doctrine chrétienne. Si bien que certains chrétiens ne croyaient même pas en Jésus comme étant la seule source de salut. Voyez-vous comment parfois, même en tant que croyants, nous pouvons nous laisser divertir par ce que nous entendons ou nous voyons autour de nous. Et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre va écrire cette lettre, en détention même. Alors qu'il avait toutes les raisons de s'apitoyer sur son sort, alors qu'il avait toutes les raisons même de se plaindre devant Dieu, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va être poussé à écrire un encouragement pour les chrétiens de Colosse. Il encourage à croire en la fidélité de Dieu. Oui, frères et sœurs, quelles que soient les circonstances, croyons en la fidélité de Dieu. Parce que la parole nous présente Dieu comme celui qui n'est pas comme un homme pour mentir. Il est celui qui accomplit sa parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et l'apôtre montre la futilité des enseignements du monde comparé au projet de Dieu pour les croyants. Croyez-vous que Dieu a des projets pour nous? Le croyez-vous? Oui, nous le croyons. Nous voulons avec assurance nous approprier la parole de Dieu. Il dira à son peuple, je connais les projets, les plans que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oh, quelle grâce de savoir que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, mais que nous pouvons faire confiance à notre Seigneur. Alors, il met en évidence l'apôtre pour montrer la nullité des enseignements de ce monde. Paul met en exergue ce que Christ a fait. Oui, le premier chant, nous l'avons chanté ici. Oui, nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait pour nous, pour le salut qu'il a accompli en nous. Et Paul montre ce que Christ a accompli pour nous octroyer la vie éternelle, montrant qu'en Christ, nous avons tout ce qui est nécessaire à notre vie et à notre foi. Oui, en Christ, nous avons. Paul dira, nous avons tout pleinement en Christ. À cause de cela même, si en lisant, et je vous conseille, je vous encourage à relire cette épître de l'apôtre Paul aux Colossiens. Parce que si toutefois elle s'adressait de prime abord à une église du premier siècle confrontée aux hérésies, elle expose tout de même des vérités éternelles que nous allons voir ensemble l'une d'elles. Et l'une des hérésies qui se propageait était liée à ce courant de pensée-là qui enseignait que pour être accepté de Dieu, l'homme a besoin d'une étincelle divine. C'est en quelque sorte une connaissance spéciale. C'est le gnosticisme qui enseigne cela pour montrer que pour que l'homme puisse être accepté de Dieu, il a besoin d'une connaissance spéciale. Heureusement que ça ne tient pas, parce que je vous prie de croire que je ne serai pas là. Si Dieu devait nous accepter à cause d'une connaissance spéciale que nous aurions dû posséder, même les sages de ce monde ne saurions pas être acceptés de Dieu. Mais l'apôtre va refuter ces enseignements-là. Il refute cette idée et il remercie Dieu, il rend grâce à Dieu pour la foi et l'amour de ces chrétiens fondé sur l'espérance, un rapport avec le ciel, mettant à nu non pas la connaissance elle-même, mais celui que nous connaissons. Voyez la différence. Ce n'est pas la connaissance elle-même qui est importante, mais c'est le Dieu que nous connaissons. C'est lui qui a plus d'importance que cette connaissance que nous pouvons avoir de lui. Revenons sur sa reconnaissance pour les Colossiens, Paul parle de l'espérance qui est réservée au ciel. Il parle de l'espérance. Il le dira lui-même. Je rends grâce à Dieu à cause de votre foi, de votre amour, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. De quoi s'agit-il ? Quelle est sa source et qu'est-ce qu'elle implique? Voilà les points que nous allons aborder ensemble ce matin, pendant ces quelques minutes qui restent devant nous. Lorsque Paul s'adresse à une autre église, celle des Corinthiens, qui était elle aussi en proie à la corruption morale, Paul parle d'une connaissance complète, mais elle est différente de l'enseignement erroné de ceux qui croyaient que pour être accepté de Dieu, il fallait une certaine connaissance, ce qu'ils appellent une étincelle divine. Paul parle ici d'une connaissance complète, ici pour montrer le jour où ceux qui auraient placé leur confiance en Dieu verront Christ face à face. Et à ce moment-là, lorsque nous serons dans la présence de Dieu, lorsque nous serons acceptés, lorsque nous serons dans la présence de Dieu, en ce moment-là, nous serons parfaits et notre connaissance sera complète. C'est le seul moment où nous aurons une connaissance complète. Ici-bas, nous tendons vers la perfection, mais nous n'aurons jamais une connaissance complète et ici-bas. En attendant, il leur parle des qualités humaines qui les aideront dans leur marche avec le Seigneur. Et c'est ce qu'il va dire dans sa première épître au chapitre 13, verset 13, quand il va dire ceci, « Maintenant, trois choses demeurent. » Trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Mais nous allons nous focaliser ce matin sur l'espérance. Même si nous savons que la plus grande chose, c'est l'amour. Paul, quand il s'adresse aux Colossiens, il dira, il rend grâce pour leur foi, leur amour, à cause de l'espérance qui leur est réservée au ciel. De quoi s'agit-il alors? C'est quoi l'espérance? C'est l'attitude que nous adoptons et l'objectif que nous nous poursuivons en réponse à notre foi. En réponse à notre foi en Dieu, elle, cette même foi qui se nourrit de l'amour même de Dieu. Il ne peut y avoir d'espérance sans l'amour de Dieu. Parce que c'est à cause de l'amour de Dieu que Christ a livré sa vie à la croix afin de nous permettre non seulement d'être sauvés de nos péchés, mais de pouvoir un jour espérer être au ciel avec notre Dieu. C'est dans son amour que Dieu a livré son Fils Jésus. Paul dira aux chrétiens de Rome, au chapitre 8, versets 24 et 25, l'apôtre va dire ceci. Romains chapitre 8, verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Dans la version originale, c'est dit, c'est pour l'espérance que nous sommes sauvés. C'est pour l'espérance. Pour l'espérance. Nous voyons déjà que lorsque Paul s'adresse aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 12, il leur fait comprendre qu'autrefois, ils étaient sans Christ, sans Dieu et sans espérance. Sans Christ, sans Dieu et sans espérance. En examinant de près cette parole de Paul, il montre que lorsque, souvenons-nous que quand Paul s'adresse aux Éphésiens, voilà, il parle à des Juifs. Et il leur montre que lorsque Dieu a conclu une alliance avec le peuple d'Israël, il leur promettait des privilèges, des bénédictions, mais que ceux qui étaient en dehors de l'enclos, ceux qui étaient à l'extérieur de cette alliance-là ne sauraient bénéficier des bénédictions de Dieu. C'est pour cela qu'il montre quand même, il dit, voilà, vous étiez sans Dieu, sans Christ et sans espérance. Sans espérance parce que, ils étaient là uniquement voulant se réjouir des choses de la terre, c'était en vain. Et comme nous aussi. Nous ne pouvons pas jouir uniquement des choses de la terre, espérer uniquement aux choses de la terre. L'apôtre Paul le dira aux Corinthiens, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons, nous sommes les plus malheureux. Nous sommes les plus malheureux. Si c'est uniquement sur cette terre que nous espérons, il ne dit pas de ne pas espérer. Paul ne dit pas qu'en tant que croyant, nous ne devons pas espérer en étant sur la terre. Oui, l'espérance, elle commence ici-bas. et elle se poursuit dans le ciel. Mais nous ne pouvons pas baser notre marche chrétienne uniquement sur ce que nous voyons, parce qu'un jour, ces choses-là vont disparaître. Paul parle de l'espérance qui est réservée au ciel, et c'est ça l'assurance du chrétien. L'espérance qui nous est réservée au ciel. La foi de Paul en Dieu, notre foi en Dieu et notre acceptation de l'œuvre rédemptrice de la croix nous ont assuré le salut en Jésus, tout en nous donnant le salut de notre destination finale. Eh oui, nous sommes, comme la parole de Dieu nous dit, des voyageurs et des pèlerins sur cette terre. Notre destination finale, ce n'est pas ici-bas. C'est ce que pensent certains hommes qui croient que la vie s'arrête uniquement ici-bas. Mais c'est un piège de l'ennemi qui aveugle les hommes afin de les empêcher de s'ouvrir à la grâce de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, et je crois que c'est ce que vous faites, quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que oui, il y a une vie sur cette terre. Mais cette vie-là, si elle n'est pas vécue avec le Dieu de la vie, nous serons les plus malheureux. Mais notre vie que nous vivons ici-bas, en étant avec Dieu, elle nous assure non seulement les bénédictions de Dieu sur la terre, parce que oui, lorsque nous vivons avec Dieu, il est à côté de nous, il vit en nous, il nous aide dans nos difficultés, il nous aide dans nos épreuves, il nous aide quand nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, quand nous sommes en face de l'ennemi de nos âmes, nous n'avons pas à craindre, parce que Dieu est avec nous, il combat pour nous. Oui, l'espérance commence ici-bas, mais nous vivons en espérant un jour pouvoir être au ciel avec notre Dieu. Quelle assurance! Notre destination finale, c'est le ciel. C'est le ciel. C'est là où il n'y aura plus de souffrance, de douleur, de grincement de dents auprès de Dieu. Je parle du ciel auprès de Dieu. Parce que tous croient que quand ils mourront, ils iront au ciel. Mais oui, mais de quel côté? Eh oui, auprès de Dieu, je veux dire, hein, auprès de Dieu. Qu'est-ce qu'elle implique alors, cette espérance? Je ne prétends pas pouvoir vous donner toutes les réponses, mais je vais essayer, avec toute l'humilité et avec la sagesse de Dieu, de nous faire comprendre ce que Paul a voulu dire en parlant de l'espérance qui nous est réservée au ciel. L'apôtre Pierre, lorsqu'il va encourager, il connaissait les souffrances dans lesquelles ses contemporains étaient. Alors pour encourager ses croyants qui traversaient des épreuves, il leur donne la joie et l'espérance dans les temps difficiles. Et alors qu'il met sa confiance lui-même sur ce que Dieu a fait pour chacun de nous en Jésus, Pierre va leur dire ceci. Dans sa première épître au chapitre 3, chapitre 1er, versets 3 à 4. Regardez ce que Pierre va dire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être réservé. L'apôtre Paul, tout comme Pierre, nous parle de cette espérance vivante qui nous est réservée dans le ciel. Nous voyons comment tous deux ne parlent pas d'une connaissance spéciale pour permettre aux hommes d'accéder un jour au ciel. Même si la connaissance est importante. Mais Pierre comme Paul nous parlent de ce que Dieu a fait en Jésus pour permettre à ceux qui croient en son nom de vivre avec lui dans le ciel un jour. Cette espérance vivante, c'est Christ lui-même. C'est lui notre espérance. Puisque l'apôtre dira, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est lui notre espérance. Si Christ n'avait pas livré sa vie à la croix, si Christ n'avait pas obéi à son Père pour se donner lui-même, afin d'accomplir pleinement la justice de Dieu, de satisfaire le cœur de Dieu, il n'y aurait point d'espérance. Notre avenir serait pour toujours sombre, dans les ténèbres. Eh oui, notre avenir serait sombre. Nous serions pour toujours voués à la perdition. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu, frères et sœurs. Et c'est ce que nous devons faire à chaque fois que nous sommes devant Dieu. Bénissons Dieu de ce qu'il a changé notre avenir. Au lieu des ténèbres, il nous a donné sa lumière. Il nous avait connaître l'amour de Dieu pour pouvoir être avec lui dans le ciel. Parce que nous avons été faits par Dieu et pour Dieu. Par Dieu et pour Dieu. C'est à cause de cela même que Jésus, c'est notre espérance vivante. C'est en lui que le plan de Dieu a été révélé aux hommes. Quand Paul va s'adresser aux Colossiens, il leur dira, il leur montrera comment ils ont connu l'espérance. Il dira par l'annonce de l'Évangile. Par l'annonce de l'Évangile. C'est lorsque le message de Dieu va faire écho dans leur cœur en présentant Christ comme le seul salut qu'ils ont mis leur foi en sachant que leur foi les porterait un jour dans le sein même de Dieu, dans son ciel de gloire. Dieu a voulu que son Fils règne dans le cœur de tous ceux qui croiraient en lui. Et c'est par la miséricorde de Dieu que nous sommes nés de nouveau. Christ, ayant subi le châtiment de nos péchés, et que les justes exigences de la loi divine ont été pleinement satisfaites, le cœur de Dieu a été satisfait. Et à cause de cela même, son ciel est ouvert pour tous ceux qui croiraient en Jésus-Christ et qui placeraient en lui leur confiance. Nous réalisons tout de même que si notre espérance ne se limite pas ici-bas, il est certain tout de même que le salut en Jésus nous donne l'espérance d'un héritage qui englobe ce que le croyant, le chrétien jouira au ciel pour l'éternité et de tout ce qui lui appartiendra grâce à Christ. Et quand Pierre va le présenter, cet héritage-là ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, et il nous est réservé au ciel. Quand nous examinons ce que l'apôtre Pierre va dire, cet héritage ne peut ni se corrompre. Ce que Christ a fait au travers de son œuvre à la croix pour nous octroyer le salut, cela ne peut se détériorer car il ne peut plus être touché par la mort, Christ ayant vaincu la mort. C'est pour cela que Pierre dira, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ à travers sa résurrection, il a anéanti la puissance de la mort. Et à travers sa résurrection, voilà l'héritage que nous avons en lui ne peut être détérioré. Il ne peut ni se flétrir parce que sa valeur et sa gloire, sa beauté ne seront jamais altérées. Sa beauté ne sera jamais altérée. Sa gloire ne sera jamais altérée. Tout cela à cause de la mort de Jésus-Christ, qui a anéanti tout ce qui pouvait corrompre, tout ce qui pouvait détériorer la gloire de Dieu. Ça ne peut pas être affecté ni par le temps qui passe. En raison même de cette espérance fondée sur la résurrection de Jésus-Christ, Pierre montre que le croyant peut être dans la joie tout en étant dans l'épreuve. C'est paradoxal, hein, mais c'est une réalité. Une réalité. Être dans la joie quand bien même je suis dans l'épreuve. Comment cela peut-il se produire quand je suis dans la souffrance? Quand je suis dans l'épreuve, alors que j'expérimente la paix de Dieu. La paix. La paix de Dieu. L'apôtre dira ceci: il vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. Même dans l'épreuve, Dieu nous garde. Même dans la souffrance, il nous garde. Il ne permet pas que quelque chose au-delà de notre force puisse nous arriver, ce qui va nous permettre de chuter, d'abandonner. Mais Dieu, au sein même de l'épreuve, de la difficulté, nous aide. Il nous secourt. Il nous soutient. C'est pour cela que l'espérance, elle est liée à la foi. Elle est liée à la foi. J'aimerais voir avec vous ce que Paul va dire. Il nous prend l'exemple, la démarche d'Abraham. Lorsque Dieu va parler à Abraham un jour pour lui faire connaître son plan pour lui, même dans son âge avancé, il a promis un héritier à Abraham. Alors que le temps et les circonstances était défavorable. Et pour nous parler de ce qu'Abraham a fait, au chapitre 4 de son épître aux Romains, verset 18, Paul dira ceci: espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Cela, selon qu'il est écrit, telle sera ta postérité. Espérant contre toute espérance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors qu'il reçoit cette parole de Dieu, à côté, le temps et les circonstances disaient autre chose. Et parfois, c'est ce que nous expérimentons, nous vivons dans notre marche avec le Seigneur. Les circonstances et les événements, le temps nous porte à croire que ce que Dieu dit ne pourrait s'accomplir. Abraham aurait pu regarder à son âge, à l'âge de sa femme, et se dire, mais c'est hors de sens ce que tu me dis. Ça n'a pas de sens. Comment un vieux comme moi, comment une vieille comme Sarah peut-elle espérer avoir un enfant? Voyez-vous, frères et sœurs, il y a parfois dans notre marche avec Dieu, nous sommes là, nous attendons à Dieu pour une chose ou pour une autre. Et là, malheureusement, il y a la voix de l'ennemi de nos âmes qui nous pousse à croire que ce que Dieu dit dans sa parole ne saurait s'accomplir. Et malheureusement, nous captons ce que l'ennemi de nos âmes nous dit et nous fondons notre marche sur ce que nous avons entendu au lieu de fixer nos regards sur Dieu et sur ce qu'il dit. Si bien que, alors que j'écoute la voix de l'ennemi de mon âme, alors que je lui laisse me faire croire qu'il n'y a plus de solution possible, qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a plus d'échappatoire, j'essaye par moi-même de trouver une solution à ma situation, à mon problème. C'est ce que Abraham a essayé de faire un instant avec Agar. Poussé par sa femme Sarah, qui va lui dire, « Prends ma servante. Prends ma servante et tu auras l'héritier par lui. » Mais vous savez, il n'y a pas de plan B avec Dieu. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il va accomplir, même si nous ne croyons pas. Et là, lorsque cet enfant va naître, Dieu, malgré tout, dira à Abraham et à Sarah, « Non, ce n'est pas par ce fils-là. Ça, c'était votre propre moyen. » Voyez-vous, frères et sœurs, l'espérance, elle est liée à la foi. Espérant contre toute espérance, il crut. C'est croire malgré les démentis du temps présent, des circonstances présentes, de ce que nous voyons, des perspectives. Je me mets dans cette situation en me disant que malgré tout ce que je vois, tout ce qui est contraire à ce que Dieu dit dans sa parole, il y a des perspectives nouvelles qui peuvent s'offrir à moi à cause de ma foi en celui qui me parle dans cette situation-là. Lorsque Pierre parle de cette espérance vivante, ses auditeurs souffraient de la persécution à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et malheureusement, en tant que croyants aujourd'hui, nous pouvons souffrir à cause de notre foi. Mais ce n'est pas en tant que la souffrance en tant que telle que Pierre met en évidence, mais aussi il montre qu'au sein de la souffrance, même étant souffrant à cause de notre foi, il peut y avoir une consolation qui vient de la part de Dieu. Ils ont la certitude que leurs souffrances ne sont pas vaines. Frères et sœurs, notre foi en Dieu, notre confiance que nous plaçons en lui, alors que nous regardons à la grandeur, et comme cela a été dit par ce don spirituel, on ne regarde pas à notre petitesse, mais à la grandeur de notre Dieu, à ce qui est infiniment grand, qui peut faire bien au-delà de ce que nous croyons et nous pensons, quand nos regards sont fixés sur lui, j'ai cette assurance que même dans mes souffrances, que même dans la situation présente, ma souffrance n'est pas vaine. Vous savez, si malheureusement, ceux qui ne croient pas en Dieu, leurs souffrances sont un avant-goût de la souffrance éternelle, malheureusement. à cause de leur refus de la grâce de Dieu. À cause de leur refus de la grâce de Dieu, les souffrances qu'ils endurent aujourd'hui sont un avant-goût de ce qu'ils vont souffrir. Et par la grâce de Dieu, nous avons échappé à cette souffrance éternelle. Et nos souffrances ici-bas, présentent en tant que croyants des buts bénéfiques. Pourquoi ? Parce qu'elles éprouvent la réalité de notre foi. Elles éprouvent la réalité de notre confiance que nous plaçons en Dieu. Et c'est pour cela que la foi, elle est parfois comparée à de l'or dans la parole de Dieu. L'or, en passant par le feu, et il faut bien qu'il passe par le feu, pour que l'on puisse connaître sa réelle valeur. En passant par le feu, vous savez, l'or peut paraître indestructible. Il peut paraître indestructible, l'or. Mais au fil du temps, il s'use aussi. À vous, mesdames, avec vos pendants, vos colliers. Parfois, ça s'use, hein, même si c'est de l'or. N'est-ce pas? Vous l'avez acheté cher. Parfois, vous le perdez même. Par contre, la véritable foi est indestructible, même si elle passe par le feu. C'est ce que l'apôtre Pierre va dire à vous qui êtes gardés à cause de votre foi par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Quand on place notre confiance dans le Seigneur, c'est son esprit qui nous entoure. Nous ne sommes plus seuls. C'est la raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il devait partir, n'a pas laissé ses disciples dans l'angoisse, dans la crainte, dans la peur. Il dira, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de Dieu. Il sera en vous. Il sera avec vous. Et lorsque le chrétien traverse les épreuves, les difficultés, son regard se fixe maintenant sur son Seigneur. Les épreuves de la vie ne devraient pas détruire notre foi. Par contre, notre foi doit se nourrir de nos épreuves. Nous avons l'exemple de Job. Job, avec tout ce qu'il a subi, vous savez, en un jour, il a subi les plus lourdes pertes qu'un homme peut expérimenter dans sa vie. En un jour, les pertes que Job a subies, je ne crois pas qu'aucun d'entre nous l'a déjà vécu. Néanmoins, il a pu dire ainsi, au chapitre 13 et au verset 15, « Voici quand même, en parlant de Dieu, il me tuerait. » Alors que ses amis étaient là en train de l'accabler, voulant le faire croire que c'est par son péché que Dieu le punissait, c'est par sa désobéissance qu'il endurait ces épreuves-là. Dans sa confiance en Dieu, il va s'exprimer en ces termes, « Quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » Quand même il me tuerait. Comme si les souffrances qu'il endurait ne lui suffisaient pas. Job était en train de dire, même si Dieu, avec tout ce qu'il a permis que je vive, même s'il venait à ôter ma vie, j'espérerai toujours en lui. Oh, quelle confiance! Quelle confiance! Ce qui m'amène, moi, à me dire, Seigneur, viens-moi en aide, viens-nous en aide. Nous n'atteignons même pas la cheville des épreuves que cet homme a subies. Mais parce que, voilà, nous avons la grâce, nous sommes dans les temps de la grâce. Job, même s'il croyait, il n'avait pas vu Jésus. Aujourd'hui, nous voyons Jésus à travers son œuvre de la croix. Et à cause de cela même, nous savons qu'il est mort à la croix pour nous. Nous savons qu'il a souffert pour nous. Et c'est ainsi que je mets ma confiance en lui en disant, Seigneur, quel que soit ce que je vais endurer, je croirai en ta fidélité. Oui, je croirai en ta fidélité. Je n'ai pas le temps de vous parler des trois compagnons de Daniel, éprouvés par le feu. Quelle souffrance! Mais la réalité de leur foi, ne pouvait qu'être éprouvé par ce feu-là. Je termine en disant ceci. Lorsque s'installe le doute dans nos cœurs, et le doute certainement viendra parce que nous sommes humains, lorsque s'installe le doute à cause de la dureté des épreuves, et que notre foi faiblit, rappelons-nous d'une chose, de notre destination finale, le ciel. Notre espérance devrait avoir pour fondement les promesses de Dieu. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit au chapitre 6, verset 13. Il dira ceci. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différents. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposé. Notre seul refuge, c'est de saisir l'espérance. Notre seul refuge. Et elle doit se fonder sur les promesses. Alors, je termine avec ceci. Parfois, nos épreuves sont tellement dures qu'elles paraissent à nos yeux interminables. N'est-ce pas? Elles paraissent à nos yeux interminables. Mais la parole nous encourage à nous attendre à l'intervention de Dieu. Elle nous encourage à espérer en lui au moment voulu. Pourquoi? Parce que ses promesses ne changent pas. Ses promesses ne varient pas. Et dans notre marche avec Dieu, notre espérance, nous nous confions en lui. Et parce que nous nous confions en lui, nous avons cette assurance que notre espérance, elle est sûre. elle est inébranlable. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas fondée sur ce que nous voyons. Parce que Paul dira, l'espérance que nous voyons n'est plus espérance. Non, ce que nous voyons, ce n'est plus espérance. Notre espérance, c'est placer notre confiance, même si nos yeux ne voient pas. Et voilà, elle est ancrée dans le Seigneur lui-même. Alors, frères et sœurs, l'apôtre Paul dira ceci, quand nous revenons à ce que nous avons lu, il rend grâce à Dieu pour les chrétiens de Colosse, à cause de leur foi, pour leur foi, pour leur amour, qui tous deux sont fondés sur l'espérance qui leur était réservée. Frères et sœurs, à cause de notre espérance, l'espérance qui nous est réservée, manifestons notre confiance. Ce qui devrait nous amener à nous aimer les uns les autres et à aimer notre prochain. Même celui qui nous fait plus de mal. C'est notre responsabilité de l'aimer. Et nous voulons bénir Dieu parce qu'au travers de sa parole, nous trouvons un encouragement sûr et certain. Quand je traverse l'épreuve, quand je suis dans une situation qui échappe à mon entendement, je regarde à ma destination finale. Parce que je sais que ces souffrances que nous traversons, elles sont passagères. Un jour viendra où le Seigneur nous donnera la victoire totale. Mais même ici-bas, nous pouvons déjà expérimenter d'une manière ou d'une autre la grâce de Dieu. Je ne dis pas que, dans nos souffrances ici-bas, le Seigneur ne nous viendra pas en aide. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur peut nous aider et c'est ce qu'il fait dans la vie des uns des autres. Ce que Dieu fait échappe à notre entendement. Nous avons du mal à comprendre comment quelqu'un d'autre qui est dans une souffrance, Dieu lui vienne en aide et qu'un autre qui est dans une souffrance ou dans la même souffrance, il s'éternise dans sa difficulté. Ça nous échappe, ça, frères et sœurs. C'est au-delà de notre entendement. Mais parfois, nous nous arrêtons à cela en disant, oui, pourquoi Dieu a-t-il permis pour... On ne peut pas savoir. Heureusement que le Seigneur ne nous permet pas de tout savoir. Mais il nous amène à placer notre regard sur lui et lui seul, parce que de lui vient notre salut. Que son nom soit béni. Oui, dans l'épreuve, frère, toi qui es dans la difficulté, toi qui souffres, toi qui ne vois pas l'accomplissement de la promesse de Dieu sur ta vie, attache-toi à Dieu et à sa promesse. Et un jour, il se glorifiera et il te permettra de voir des jours heureux pour la gloire de son nom. Amen. On prie Dieu ensemble. Oh Seigneur, mon Dieu, c'est vrai, c'est pour... cette espérance qui nous est réservée dans le ciel que tu es venu nous sauver. Seigneur, mon Dieu, tu n'es pas venu nous sauver pour nous laisser livrer à nous-mêmes, pour nous laisser dans nos souffrances, dans nos épreuves. Mais Seigneur, dans ta souveraineté, tu nous donnes la force de pouvoir, en dépit de tout, avoir nos yeux fixés sur toi. Je te prie en ces instants même, Seigneur, si quelqu'un, en étant entré dans ce lieu, Seigneur, était dans le doute. Seigneur, mon Dieu, mon roi, si quelqu'un étant entré dans ce lieu est dans la faiblesse à cause de la dureté de la souffrance et de l'épreuve, Seigneur, fais grâce. Fais grâce, je t'en supplie. Fais grâce, Seigneur, parce que nul ne peut nous venir en aide si ce n'est que toi. Parce qu'à la croix, Seigneur, tu as tout accompli. Éternel, je te prie, je te rends grâce. Ô Seigneur, mon Dieu, nous regardons sur toi et nous te disons merci pour cet encouragement que tu nous donnes au regard de ce que nous vivons aujourd'hui. Que la louange et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Amen.